Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
À 18 ans, Julien a choisi de partir en Afrique, poussé par un besoin de renouveau, de lâcher prise et d'ailleurs. Marqué par les rencontres faites en Afrique de l'Ouest, Julien n'a cessé d'y retourner. Je l'ai rencontré au Grand Bivouac à Albertville, où il est venu présenter son film « Voix d'Afrique », qu'il nous présentera dans une deuxième partie de l'émission. Mais tout de suite, rencontrons Julien, un voyageur qui prend le temps de s'imprégner pour comprendre les pays traversés.
J'habite à côté d'Albertville, ici, dans un petit village où je suis né. J'ai été dans ce lycée dans lequel on est aujourd'hui. Ce lycée, justement, à 17 ans, je l'ai quitté parce que le système scolaire me correspondait, je ne m'y retrouvais vraiment pas. Du coup, j'ai décidé d'arrêter l'école et c'est à ce moment-là que je suis parti au Bénin. Et c'est là aussi, à ce moment-là, avec ce premier voyage au Bénin, que j'ai décidé, que je me suis dit que le voyage serait mon école. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pas mal voyagé chaque année, plusieurs mois, et notamment en Afrique.
Donc toi, ton premier voyage, t'as 17 ans. À 17 ans, t'as quitté ta Savoie natale pour te dire, allez, je vais me mettre dans un pays radicalement différent, avec des croyances et une culture très différente de mes valeurs.
Oui, alors en fait, à 17 ans, donc j'ai arrêté l'école, mais il fallait que je trouve un petit peu d'argent. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Je savais pas faire grand-chose, sauf du ski. Donc j'ai décidé d'être moniteur de ski à ce moment-là. Donc j'ai passé d'abord une première saison. Et à partir de là où j'ai commencé à être un petit peu indépendant au niveau financier, c'est là que je suis parti, donc à 18 ans, effectivement, au Bénin. Ouais.
Pour enseigner le ski, bien sûr.
Pour enseigner le ski, ouais. Ça marche bien là-bas.
Donc, tu es parti dans un cadre pour la première fois, parce que je sais que quand en général, quand on est jeune, il y a des organismes d'envoi de volontaires, faire, je sais pas, construire une école, planter des arbres. Ou est-ce que tu es vraiment parti, allez, je vais au Bénin, j'y vais?
Non, je suis jamais parti avec une structure. J'ai toujours voyagé seul, enfin, du coup, ouais, sans organisation, etc. quoi. J'étais parti donc à 18 ans, un mois. Je suis rentré, j'avais pris donc un billet aller-retour, mais deux mois plus tard, en fait, je suis reparti pour un mois et demi. Là, je suis revenu pour l'hiver et là, je suis reparti 7 mois, quoi. Après, ensuite, j'ai enchaîné chaque année comme ça en Afrique de l'Ouest, mais toujours seul. Et après, là-bas, j'ai rencontré pas mal de gens. Donc, j'ai vécu, par exemple, pas mal de temps à Cotonou. Où maintenant j'ai un peu comme une famille aussi là-bas, et quand j'y retourne dans laquelle je retourne souvent, quoi.
Qu'est-ce qui t'a tenu? Qu'est-ce qui a fait que tu y retournes encore et encore avant de te lancer dans un projet vidéo?
Ce qui m'a lié réellement à l'Afrique, je pense, c'est le fait que je cherchais quelque chose. J'étais un peu perdu ici, je me sentais pas forcément à ma place, et l'Afrique m'a recentré sur qui je suis. Et même si je le sais pas encore, mais ça m'a donné une voix. Et aujourd'hui, vu qu'elle m'a apporté énormément à ce moment-là. Je me sens énormément lié aussi à ce continent par rapport à ça, quoi. Et donc, du coup, toute cette histoire, une histoire qui est extrêmement liée à celle de l'Europe et de la France en général, et essayer de comprendre tout ce qui lie justement cette culture, ces cultures et cette histoire, c'est vraiment une histoire qui est entrelacée avec celle de la France depuis 400 ans maintenant, quoi.
C'est toujours très compliqué de parler de l'Afrique, parce qu'on dit l'Afrique, mais c'est pas l'Afrique, faudra dire des Afriques, qu'on soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, ou c'est pas la même Afrique.
Non, c'est tout à fait vrai, il y a énormément d'Afrique, mais il y en a surtout deux majeurs, et qui posent d'ailleurs un problème dans l'unification du continent, c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Parce que historiquement, ça a toujours été un gros conflit. Hein. Par exemple, les Noirs ont toujours été un peu considérés comme des esclaves par les peuples d'Afrique du Nord. Et c'est aujourd'hui un gros dilemme chez les panafricains qui veulent unir au maximum l'Afrique pour avoir un poids plus important, ce problème avec l'Afrique du Nord, quoi. Mais surtout aujourd'hui, l'Afrique, en tout cas qu'on connaît, l'Afrique de la conférence de Berlin de 1885, qui a été découpée par quelques Européens et qui se sont partagés les terres, est une Afrique un peu faussée, parce que elle correspond absolument pas, en fait, à une découpure socio
frontière culturelle, tout simplement.
Frontière socio culturelle, et du coup, c'est un des problèmes majeurs actuel de l'Afrique. Et bah, on sait aussi pourquoi ça a été fait comme ça, hein. Comme tu dis, il y a énormément d'Afrique, malgré ce que peut en penser Nicolas Sarkozy et bien d'autres. L'Afrique a une grande histoire, il y avait de très grands empires, et voilà.
Mais ça, c'est tout le problème de la mondialisation. On arrive quelque part, on va imposer son modèle plutôt que se dire, putain, les mecs, vous avez évolué autrement que nous, bah viens, on est dans la complémentarité. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous pendant tant d'années, que ce soit les Indiens d'Amérique, que ce soit les aborigènes, au lieu d'imposer vraiment sa vision sur le monde. Je crois que l'humanité s'est vraiment plantée, quoi. On aurait dû être dans la complémentarité et dire, bah voilà, nous on a développé le matériel et toi t'as foutu quoi pendant tout ce temps-là? Ah ouais, t'as fait ça, c'est génial, allez, on avance ensemble. Et non, on était dans cette logique d'écraser les populations, d'écraser les cultures et de leur imposer notre modèle. Donc quelque part, on peut se poser la question, mais quelle est la direction que l'homme prend aujourd'hui? Bon, en tout cas, voilà, il n'y a pas de réponse à ça, ça fait partie de l'évolution des espèces. Peut-être qu'on est une espèce ratée dans l'évolution, comme il y en a eu d'autres, peut-être pas, j'en sais rien, on n'est pas là pour débattre de ça, mais plus pour parler d'Afrique, ou des Afriques, et de ton expérience en Afrique. Donc c'est vrai que quand je pense à l'Afrique, je pense à la traite noire, à ce continent, effectivement, où les gens ont très vite, ou très longtemps, été dévalorisés, parce que l'esclavage, qu'est-ce qu'il en reste qu'aujourd'hui? Est-ce que tu sens encore ce peuple marqué par leur passé historique? Est-ce qu'il y a toujours cette dévalorisation du noir par rapport au blanc? En Afrique, je parle, hein. Comment est-ce que tu perçois ça, ce regard du noir sur le blanc?
C'est une très bonne question et qui est hyper complexe. En fait, je voudrais d'abord, faudra faire repenser à revenir là-dessus, mais je voulais déjà revenir sur le problème, par exemple, l'histoire de l'esclavage. Par exemple, on dit souvent que les Africains vendaient les esclaves. C'est aussi des empires africains, des rois africains qui ont vendu leurs esclaves. La façon dont aussi ça s'est passé à la traite négrière, c'est que les blancs qui avaient des armes à feu ont armé une partie des empires qui étaient en guerre contre d'autres. Du coup, ils ont pris un énorme avantage militaire. Et à ce moment-là, ils sont allés voir l'autre empire en disant, si vous voulez vous défendre, il va vous falloir aussi des armes à feu, mais on va vous les échanger contre des prisonniers de guerre. Donc, je veux dire, ça a commencé aussi un petit peu comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui.
Une forme de chantage, en fait.
C'est une déstabilisation qu'on crée pour venir un petit peu jouer aux pompiers. Et cette situation, aujourd'hui, si on déplace pas les Africains, la situation est restée identique. Totalement identique. Aujourd'hui, comme tu disais, il y a plusieurs Afriques. Il y a une Afrique en particulier à laquelle je m'intéresse, c'est l'Afrique francophone. Parce que l'Afrique francophone, c'est celle qui est le plus enclavée aujourd'hui dans un système néocolonial, postcolonial plutôt. Et cette Afrique francophone, aujourd'hui, elle est encore réduite d'une certaine façon à ce principe. Par exemple, par des accords militaires, des accords de sécurité qui sont passés entre la France et ces pays. Et puis, par exemple, à la monnaie, le franc CFA, qui est le franc colonial d'Afrique, hein, et qui appartient au trésor public français. Donc, c'est un poids énorme, en fait, à la France. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays de l'Afrique francophone n'ont pas d'indépendance monétaire. Ils n'ont pas d'indépendance monétaire, leur monnaie ne leur appartient pas, et au niveau de la sécurité, ils ont énormément d'accords avec la France. Toutes les armées, les gendarmeries et tout sont formés à chaque fois par les Français, etc. Et ce qui fait qu'il y a de ce côté-là, ils perdent énormément d'indépendance. Notamment, on continue aujourd'hui à déstabiliser certaines zones, ou en tout cas se servir de la déstabilisation de certaines zones qui sont souvent des zones, en fin de compte, où il y a des ressources. Et donc des enjeux considérables. Et on continue à jouer avec ça. à jouer avec armée des rebelles, et puis ensuite quand ces rebelles, pseudo rebelles, ces mercenaires ou ces groupes armés déstabilisent la zone, et ben on vient jouer aux pompiers, et ça nous permet encore d'installer des bases militaires et de garder ce contrôle sur toutes les zones minières, sur toutes les zones à ressources naturelles qu'on peut avoir sur le continent. On a énormément d'enjeux sur le continent africain, les enjeux pétroliers, l'enjeu nucléaire avec l'uranium. On a aussi un énorme enjeu qui est celui du marché africain, qui est un continent énorme, qui a 1 milliard d'habitants et qui consomme aussi. Donc on essaye aussi de vendre nos produits là-bas. Il y a toutes les grandes marques qui sont implantées. Il y a aussi tout l'enjeu de l'agroalimentaire. Les grandes multinationales ont énormément de terres en Afrique. Et tout ça fait que ce continent, aujourd'hui, reste maintenu dans une déstabilisation permanente pour qu'on puisse s'approprier les terres, les ressources sans arrêt. Et si un chef d'État décide de faire profiter, comme ça a été le cas par exemple de Sankara, des ressources et de se couper du système monétaire international pour relancer son pays, il est assassiné. On est mis en place un autre qui suivra ce que l'Occident lui demande. Donc on reste toujours dans ce même schéma qu'il y a eu durant l'esclavage. Quand on voit par exemple que quelqu'un qui travaille dans un champ va gagner $1 par jour à peine, et que le produit qu'il aura fait sera vendu $200, hein, par exemple pour le cacao ou des choses comme ça, eh ben on reste quand même dans quelque chose qui est assez proche de l'esclavage. Et je pourrais encore parler longtemps, mais là je crois que je parle trop tout le temps comme ça. J'allais encore rentrer dans d'autres choses, mais.
Est-ce que tu partages cette réflexion? Je ne sais plus qui me disait, si aujourd'hui l'Europe ou la France fait partie des pays développés, c'est parce que pendant plusieurs dizaines voire centaines d'années, on a pillé d'autres continents, dont l'Afrique.
Oui, c'est pas la seule raison, mais c'est une grosse raison, et j'irai même plus loin en disant qu'aujourd'hui, l'Afrique maintient l'économie française et permet justement par exemple à la France de ne pas être dans la situation comme la Grèce. Parce que, par exemple, on parle souvent, dans les dernières élections, le gros débat, c'était l'indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire. Sauf qu'on oublie de dire, c'est que le nucléaire français, c'est grâce aux mines d'uranium du Niger et du Congo. C'est-à-dire qu'en fait, on considère presque que ces pays, c'est la France. Ça reste encore dans nos têtes, en tout cas dans celles de nos politiciens, la France. Notre indépendance énergétique qui est l'uranium n'est même pas dans notre pays. Et par exemple là je travaille actuellement, en fait je fais des recherches sur les tirailleurs sénégalais. C'est pour ça là je reviens du Sénégal il y a une semaine, j'y retourne dans 2 semaines. Je fais des recherches sur les tirailleurs sénégalais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là qu'on se rend compte de choses complètement hallucinante, hein. Comme je parlais tout à l'heure par rapport à l'histoire et aux différents points de vue qu'on peut avoir, on oublie un petit peu que la France a été libérée par les Africains lors du débarquement de Provence. Et c'est ça qui a donné le poids à l'après-guerre, qui a pu faire asseoir la France au siège des vainqueurs. puisque par le débarquement de Normandie, on est libéré par les Américains et les Anglais. Si la France ne participait pas à sa propre libération, elle n'aurait pas pu avoir le poids qu'elle a eu. Et cette libération s'est faite par les Africains. Et la plupart de ces Africains ont été enrôlés de force. Il y a eu des rafles. Ils étaient pris dans les villages, comme en France, on pouvait prendre les Juifs. Et ce qui est assez drôle, enfin c'est drôle, c'est entre guillemets, c'est qu'ils partaient, ils étaient emmenés pour faire la guerre en Europe par le même port qui, 100 ans auparavant, emmenait les esclaves en Amérique. Donc 100 ans avant, on les amenait dans des champs de coton, 100 ans après, on les amène sur les champs de bataille. Et c'est quelque chose qui fait quand même un petit peu réfléchir.
On est où là? Sur l'île de Gorée, c'est ça, au Sénégal?
Exact, donc le port de Dakar. Et c'est quelque chose qui fait extrêmement réfléchir quand on voit aussi actuellement la façon dont on traite ces gens. J'ai pu rencontrer plusieurs tirailleurs qui ont débarqué en Provence. J'ai aussi rencontré le tirailleur qui a été décoré cet été sur le porte-avions Charles de Gaulle par François Hollande. Et c'est des gens qui n'ont jamais été payés. Même là, il a reçu sa médaille, il n'a rien eu d'autre. Même, il a 94 ans, il est resté une semaine en France, il n'a pas vu un médecin.
En fait, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que finalement, l'histoire de la France est intimement liée à celle de l'Afrique.
Elle est entrelacée avec celle de l'Afrique. Il ne faut pas oublier qu'avant les années 60, la France était un empire. Qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, on nous dit aujourd'hui, là, François Hollande nous fait un beau discours en disant qu'on combat aujourd'hui le même ennemi qu'à l'époque, le racisme, l'intolérance, la barbarie. Alors là, je fais un bond, parce que à l'époque, c'est pas ça qu'on combattait. La France ne combattait pas un État parce qu'il était raciste. Parce que la France était un empire raciste. Un empire avec des castes. Il y avait ce qu'on appelait les indigènes, les originaires et les blancs. Les originaires étant les noirs qui vivaient dans les quatre communes français d'Afrique noire qui étaient Thiès, Saint-Louis, Gorée et Dakar. Et on est un État raciste. Et par exemple, je vais donner un exemple. On parle souvent, par exemple, des tirailleurs entre les deux guerres qui étaient des engagés volontaires. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à cette époque, en Afrique, il y avait le service de travail obligatoire. Avant même qu'il existe en Allemagne, tout ça, il y avait le service de travail obligatoire. Quand un Africain qui avait une vingtaine d'années refusait le service militaire, en fait, il avait le choix entre s'engager volontairement dans les forces coloniales ou 3 ans de service de travail obligatoire. Donc, bon, c'est des choses faut pas oublier, quoi, parce que la mémoire est importante et l'histoire est importante, permet aussi de comprendre le présent et évite parfois peut-être de refaire des erreurs. Et les gens qui ont souffert de toutes ces situations ont besoin parfois qu'on reconnaisse nos torts, qu'on reconnaisse leurs souffrances, leurs difficultés. Je me souviens dans plusieurs voyages, hein, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, de m'être rendu compte avec le temps que la pire chose quand on est vraiment dans la misère, quand quelqu'un est réellement dans la misère ou dans la souffrance, c'est que personne ne le voit. Et de se retrouver un peu comme oublié, comme un fantôme.
C'est un peu un besoin humain, hein. C'est un besoin de reconnaissance finalement.
Oui, oui, mais surtout quand on souffre et qu'on est vraiment dans des villes comme Brazzaville, comme Kinshasa, où les enfants des rues à Cotonou, etc. Des situations où même les SDF, hein, je me souviens d'un SDF à Budapest avec qui j'avais passé une nuit et qui, on se voyait, ce qui le faisait le plus souffrir, c'est de se sentir devenir, en fait, quand on se met à, quand on est celui qui est en bas de l'échelle, on devient transparent.
L'indifférence, en fait.
Et l'indifférence des autres est énorme. C'est par exemple ce qui, je pense, est la pire chose aujourd'hui de la guerre des Kivus à l'est du Congo, où on est arrivé on a dépassé les 6 millions de morts. Et que quasiment aucun média n'en parle, c'est absolument pas à l'actualité alors que c'est une guerre actuelle et c'est une guerre qui est très complexe par rapport au coltan qui est le coltan qui est une des matières qui sert à faire nos téléphones portables et nos ordinateurs, donc toute l'industrie de l'informatique tient sur le coltan. 80% des ressources mondiales du coltan sont à l'est du Congo. Donc c'est une guerre qui est maintenue comme ça, avec énormément de milices de pays comme le Rwanda, l'Ouganda qui envahissent le pays pour extraire les minerais. C'est une guerre énormément barbare. Énormément barbare, où il y a énormément de viols, de tortures affreuses. Et c'est une guerre dont on ne parle pas. Et je me suis toujours dit, mais pour ces gens qui vivent dans cette zone, savoir que personne ne se soucie d'eux, ne s'intéresse à leur situation, c'est pour moi un des pires crimes. Le crime du silence. Et Norbert Zongo, le journaliste burkinabé qui a été assassiné en 1998, ou 97, qui disait le pire ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien.
La pire des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bien. Vous, qu'est-ce que vous faites? On ne donne pas la parole à quelqu'un. Quelqu'un arrache la parole. C'est pour vous dire ceci. Si vous allez dormir dans votre case là, et vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va se lever parce que vous êtes fatigué, ouvrir sa tête à lui pour que vous quittiez de votre fatigue et jouer des bruits là, vous avez menti. Il n'y aura personne. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe parce qu'on regarde l'autre. On se dit, il faut que les autres là fassent quelque chose. Les autres, c'est qui? C'est l'histoire des souris qui se rassemblent pour lutter contre le chat. Et la plus intelligente des souris a dit, moi j'ai trouvé, on va lui mettre une clochette au cou et chaque fois qu'il s'approche, ça sonne et on fuit. Tout le monde applaudit, on arrange la clochette, on ne trouve personne pour aller mettre.
On ne libère pas un homme. Un homme se libère. Un esclavagiste ne devient pas libertin du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France peut dire « Allez-y, vous êtes libre ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France veut notre bien. Ce n'est pas vrai. Et elle a raison parce que notre situation actuelle profite à ses intérêts. C'est humain. Notre bonheur ne peut pas venir de ceux qui ont profité de notre esclavage, de ceux qui ont profité de notre état de dépendance. Et ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi j'ai écrit, chaque fois que la France dit quelqu'un est bien, cette personne est bien pour la France. Mais c'est clair là, c'est humain. Si vous défendez les intérêts de la France couronne.
On va revenir sur question là, à laquelle tu n'as pas répondu par rapport au passé de l'Afrique. Tu disais que c'était une réflexion intéressante, cette dévalorisation du noir par rapport au blanc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore quelque chose que tu ressens? Est-ce que...
Oui, énormément en fait. Mais pas qu'en Afrique, partout. On se rend compte que partout où on va, parce qu'en plus, Ma compagne est d'origine congolaise et noire, et on a beaucoup voyagé aussi ensemble sur plusieurs continents. Et partout, le noir est considéré, même dans l'inconscient surtout de nous occidentaux, comme inférieur. Je pense que c'est souvent même inconscient. Et c'est une image aussi qui a été créée pendant longtemps et qui a été maintenue par les colons, qui propageaient aussi cette image en Europe. Pour que les politiciens européens qui ne se déplaçaient pas forcément en Afrique continuent en fait à accepter ce colonialisme, parce qu'il fallait que le noir c'était quelqu'un de gentil, un bon enfant quoi, un peu naïf, insouciant, et qu'il fallait éduquer, et hein, c'est banania quoi. Et ça c'est resté, c'est extrêmement ancré quoi. Et le fait qu'on place toujours aussi l'Afrique, c'est une prison aujourd'hui, une prison à ciel ouvert hein. C'est le continent hein, même si l'ensemble du tiers-monde est un peu dans cette situation, mais c'est l'ensemble du continent où les gens n'ont pas le droit de se déplacer dans le continent. Et donc pour parler de ça, quand on regarde par exemple l'Amérique du Sud, les plus pauvres en Amérique du Sud sont les noirs. Dans les favelas de toute l'Amérique du Sud, vous allez trouver les noirs. Quand on va aux États-Unis, les quartiers pauvres, c'est encore les noirs. Quand on vient en Europe, il y a plein d'autres choses. Il n'y a pas que les noirs, hein, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a ça. Il y a ça et...
Pourquoi ? Est-ce que cette croyance est tellement forte dans le reste du monde et même dans l'esprit des Noirs que finalement ils se mettent dans cette situation parce que leur esprit est conditionné de cette manière-là ?
Non, ils se mettent pas dans cette situation. Hein. C'est l'histoire qui les a mis dans cette situation. L'histoire qui a créé les ghettos, c'est l'histoire qui a fait l'histoire de l'esclavage, des colonies, des déportations qu'il y a eu. Et aujourd'hui aussi, effectivement, tout cet imaginaire qui a été travaillé pendant des siècles autour de cette image qui reste. Et aujourd'hui encore, l'Afrique est maintenue dans cette situation, puisque par exemple, on prend l'exemple d'Ebola, on pointe encore du doigt en fait l'ingérence sanitaire de l'Afrique. L'Afrique n'arrive pas, on va dire, l'Afrique ne peut pas gérer toute seule d'un point de vue sanitaire, donc ça permet encore à l'Occident de s'implanter et de dire c'est nous encore qui allons vous sauver, vous aider. Et par exemple, je donne un exemple, Africom a envoyé 3000 soldats. Africom, c'est la nouvelle excroissance du Pentagone en Afrique, hein, pour gérer qui envoie des soldats pour gérer une maladie. Donc on arrive tout le temps dans ces genres de situations. Et à force, c'est pesant. Et c'est vrai que on apprend, par exemple, il y a plein de chansons encore un peu à la gloire des Blancs qui sont chantées par les enfants aussi en Afrique, parce qu'on leur a appris ça à l'école et que ça, c'est resté. Et même quand, tu vois, il y a des villes où c'est très flagrant, d'autres un peu moins, mais en Afrique où les Blancs, les expatriés s'enferment dans des quartiers, et ne se mélange très peu à la population et garde un espèce de statut colonial, puisqu'ils sont dans des pays où, par exemple, je vais prendre l'exemple du Bénin, où eux sont payés 3, 4, 5, 6, ça va jusqu'à 10 000, hein, 10 000 euros par mois chez les expatriés, voire plus, dans des pays où le salaire moyen est de 40 euros, 45 euros. Et ces gens-là veulent garder cette... cette différence, en fait, cette supériorité économique qui fait que beaucoup, hein, je fais attention, je fais pas des généralités, je veux pas englober tout le monde dans ce que je raconte. Mais malheureusement, énormément d'expatriés gardent un peu un siège doré et sont en Afrique non pour l'Afrique, mais pour ce statut supérieur qu'ils peuvent avoir, quoi. Je suis un peu pessimiste et tout, hein, mais il n'y a pas que ça. Hein.
Oui, bien sûr. Et l'Africain, aujourd'hui, est-ce qu'il est conscient de cette réalité-là ? Est-ce qu'il y a des porte-paroles africains pour expliquer ou réécrire l'histoire d'une manière plus juste que celle que l'on nous enseigne ?
Oui, il y en a. En tout cas, l'Africain en général prend énormément conscience et il a beaucoup plus la conscience de toute la gestion et la manipulation qu'il peut avoir dans leur économie, dans leur politique. Je suis pas en train de faire un truc genre blanc contre noir, hein. C'est juste pour expliquer par rapport aux questions que tu poses, hein. Mais ils sont absolument conscients de ça. Il y a quand même beaucoup d'Africains aujourd'hui, là, comme je vous disais, au Sénégal, j'ai eu la chance de rencontrer en fait des historiens qui travaillent à la réécriture de l'histoire du Sénégal, justement. Là, le Sénégal a décidé de créer un comité d'historiens, de scientifiques qui travaillent à la réécriture de l'histoire du Sénégal pour qu'ils puissent enfin écrire eux-mêmes leur histoire. Donc ils fouillent et ils demandent beaucoup d'archives à la France qui peine à déclassifier énormément de dossiers, comme celui par exemple du massacre du Camp Tiaroy qu'ils attendent depuis 70 ans et qui va être déclassifié par François Hollande dans un mois. Hein, donc le massacre du Camp Tiaroy, c'est quand justement les tirailleurs sont revenus à l'après-guerre, les premiers tirailleurs à être revenus à l'après-guerre au Sénégal ont transité par le Camp Tiaroy, on a refusé de payer leurs soldes, ils ont grogné un peu fort, on les a exécutés alors qu'ils étaient désarmés. L'armée française les a exécutés pour faire un exemple. Donc voilà, des situations comme ça, ils veulent réécrire leur histoire, ils ont envie de réécrire leur histoire, ils ont envie de continuer d'écrire leur propre histoire. Et malheureusement, beaucoup de panafricains ou de porte-voix sont bâillonnés ou sont assassinés, mais ils continuent à bouger de plus en plus, et notamment les artistes, des écrivains, des historiens qui se battent pour que l'Afrique reprenne sa dignité et aspire à plus de liberté, à plus de liberté en général.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.